C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Vendredi 17 septembre, le week-end est à nos portes. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, c'est une belle journée, chaude, humide. Ça commence ce matin par un ciel qui est assez dégagé. Il y aura donc une alternance de soleil et de nuages. Maximum aujourd'hui 27, l'humidex 34, avec un ciel qui va se couvrir surtout en soirée et durant la nuit. Et avec l'humidité, donc, ben, ça nous amène avec 60% de probabilité d'averse, peut-être même un orage, durant la nuit, minimum de 19. Demain, samedi, on commence la journée avec de la pluie, des averses, un dégagement qui est prévu en après-midi, avec encore là des températures élevées, 25, l'humidex est à 28. Et bonne nouvelle pour dimanche, c'est vraiment là super comme prévision. C'est du temps ensoleillé avec un maximum de 22 degrés. On peut dire que le compte à rebours est commencé dans le réseau de la santé, le décret qui va imposer la vaccination, donc obligatoire, entre en vigueur le 15 octobre. On est en train de finaliser les détails, sauf que Québec a été très clair. Pas question de reculer. Pas question de repousser d'un mois, deux mois, trois mois l'entrée en vigueur, donc, qui prévoit que tous les employés qui ont des contacts avec les patients devront être doublement vaccinés. Ce qui veut dire qu'actuellement, les gens qui ne le sont pas ne pourront pas l'être compte tenu du délai entre la première puis la deuxième dose. Puis bon, c'est sûr que ça nous amène plus loin que le 15 octobre. Alors, c'est clair qu'il va manquer des gens dans le réseau à différents postes stratégiques. C'est vrai pour le réseau public et c'est vrai également pour les établissements privés. Le ministre Christian Dubé s'est engagé hier à ce qu'il n'y ait pas de bris de service, de rupture de service. Là, sortez votre crayon, la calculatrice, et essayez d'imaginer comment on va trouver à peu près 10 000 personnes, ça c'est le minimum, là, 10 000 personnes d'ici le 15 octobre pour remplacer ceux et celles qui seront suspendus sans solde. Et il n'y a pas de formule magique. Et c'est pas une question juste d'argent. Pour avoir parlé hier en tribune avec des infirmières, avoir été inondé de courriels d'infirmières, l'argent demeure toujours un enjeu. Mais on ne peut pas tout acheter. Et on ne peut pas non plus transformer les conventions collectives, les façons de gérer, en un mois. Hier, je me disais, comment tu fais pour ramener 10 000 personnes, là? Puis elles sont où, ces personnes? Retraitées? Dans le privé? On les sort de la retraite de quelle façon? On les force? Un décret? On récupère les gens qui sont au privé dans les agences? On les amène dans les hôpitaux? J'ai pas de réponse. Le gouvernement va trouver un plan d'action, c'est ce qu'il promet. Mais ça peut pas juste être la carotte, puis ça peut pas juste être le bâton. Parce que ça ne marchera pas. Et là, je regardais les propos des partis d'opposition. Gabriel Nadeau-Dubois qui dit que il faut y aller avec prudence, puis qu'on devrait peut-être repousser l'échéance. M. Saint-Pierre Plamondon qui dit que quand un réseau est désorganisé, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, on ne peut pas se permettre ça. Peut-être, mais là, tu fais quoi, là? Tu as des employés qui sont en contact avec les patients, donc vulnérables, des gens qui ne veulent pas être vaccinés, dont la charge virale est plus importante que les gens vaccinés. Et est-ce qu'on approche le problème en disant, ben là, on va tester, ou ça va prendre des preuves? La vaccination obligatoire va être décrétée. Alors, comme je vous dis, j'ai pas la réponse, mais je vais oser ce matin. Je le sais que c'est pas populaire, mais je vais le faire pareil. Parce que, rappelons-nous la crise, la première vague, avec tout ce qui est arrivé dans les centres de soins de longue durée. Des voix se faisant entendre disant « ça vous tente pas de faire appel à l'armée. Ça vous tente pas de dire, là, on est débordé, c'est une crise. Il y a des ressources. Ben, le temps de le demander, le temps de déployer. Et puis finalement, ils sont venus. Et ont pu rétablir, stabiliser la situation dans beaucoup de centres. Le docteur Gilbert Boucher, qui est le président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, a déclaré cet été. Il a regardé hier, on a fermé l'urgence du Suroy pendant quelques heures. Puis il y a d'autres urgences qui sont fermées. Il n'y a pas d'accès dans plusieurs régions. Je pense à l'Abitibi. Alors, je le cite, il y a beaucoup d'urgences qui commencent à parler des ambulanciers. Est-ce qu'on pourrait avoir des gens de la Croix-Rouge, de l'armée, des infirmières spécialisées? On ne peut pas leur demander de s'occuper de l'urgence, mais est-ce qu'il y aurait moyen de les utiliser pour faire des tâches, pour nettoyer le matériel, s'occuper de la rotation des patients? Il y a plusieurs urgences qui regardent ces choses-là, mais on a besoin d'aide parce qu'il n'y a plus personne qui sourit dans nos urgences, malheureusement. Tu sais, veux-tu avoir des hôpitaux militaires? Veux-tu avoir des opérations menées par la Croix-Rouge? Quand je lis ce matin dans la presse, je vous donne un exemple, OK? Puis qui, d'après moi, illustre assez bien ce qui se passe. Le réseau québécois des résidences pour aînés pourrait perdre 8 000 employés. Il y a 40 000 travailleurs, 20 % ne seraient pas vaccinés, donc 8 000. Et là, je cite M. Desjardins, qui est le président. « J'ai plus de 1 000 résidences qui n'ont qu'un seul employé la nuit. Il y en a qui me disent que cette personne-là ne veut pas se faire vacciner. » Mais là, tu fais quoi? Tu la remplaces par qui? Alors, l'idée ce matin, c'était comme de faire le tour un peu, parce que le compte à rebours est commencé, puis c'est une pression énorme. Et s'ajoute à cela, parce qu'on parle des salles d'urgence, mais tout le phénomène dont on discute depuis le début de la semaine, du délestage, du report de chirurgie, de patients COVID qui sont de plus en plus jeunes. D'ailleurs, quand vous regardez les chiffres ce matin, à la Cité de la Santé, on s'est retrouvé avec des patients, celui qui est mort, dont je vous parlais hier matin, à 39 ans, qui a été foudroyé, et qui n'avait pas, semble-t-il, d'antécédents médicaux, mais des patients à 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui sont hospitalisés, puis on le répète tout le temps, même si je sais que mes amis, les antivax, haïssent bien ça, ce sont des gens qui ne sont pas pleinement vaccinés. Et on sait que le vaccin n'est pas efficace à 100 %, mais tu regardes les tableaux, là, puis tu te rends compte que c'est pas 100 %, mais c'est ce qui est peut-être le meilleur outil de protection avec un certain nombre de mesures. Point final. Puis l'autre chose, les gens disent « Ouais, mais quoi, t'as peur, t'as le vaccin, quoi ton problème? » C'est pas une question de peur. C'est que t'as pas envie d'avoir des symptômes de COVID. T'as pas envie de voir ton état de santé parce que t'es contaminé par quelqu'un. C'est tout. T'as juste pas envie. Il semble que c'est un réflexe assez humain. Toi, t'as pas envie de te faire vacciner? Ben moi, j'ai juste pas envie d'avoir des effets secondaires. Puis quand vous parlez à des gens qui l'ont eu, quand ça traîne, tu te roules pas à terre de douleur. Mais tu sais, perdre le goût, puis les effets sur une plus longue période, espèce de faiblesse, c'est quand même une réalité. Voilà donc pour ce qui est du dossier COVID. Je vous donne un exemple du passeport vaccinal et de son effet. Puis c'est le genre de nouvelle, puis on va pouvoir développer tantôt, mais qui amène, disons, une certaine discussion. Vous savez que pour participer à des activités sportives, là, d'équipe, ben depuis le 15 septembre, ça vous prend ce passeport pour tous les gens qui sont éligibles à la vaccination, c'est-à-dire 12 ans et plus. En fin de semaine, il y a un tournoi, en fait, il y en a même plusieurs, là, les championnats provinciaux de baseball. 108 équipes, normalement, doivent participer à ces championnats. Parce que on n'a pas rempli les critères de vaccination, il y a 40 équipes qui ne pourront pas participer. C'est quand même beaucoup, là. 40 équipes qui sont pas admissibles. Alors, j'ai une mère qui m'a écrit, mère de deux joueurs de baseball qui est dans la Ligue du Grand Rosemont à Montréal. Ils ont commencé très jeunes. C'est, comme on dit, c'est une mère impliquée, fan de baseball. Alors, elle a écrit à la ministre, Mme Charest, en disant que si c'était correct le 14, puis c'est juste une question de date, on pourrait-tu faire une exception et permettre à ces jeunes de jouer? Pourquoi la date du 15? C'est sûr que dans toute mesure, ça te prend une date à un moment donné. Ça a été décrété le 15. L'autre question que tu peux te poser, si ces jeunes tenaient tant à jouer, c'est pas une surprise, on n'a pas découvert ça le 15, pourquoi est-ce qu'ils se sont pas fait vacciner adéquatement? Puis là, je comprends, ce sont des ados. Ils décident à 15-16 ans, mais en même temps, il y a aussi l'influence des parents. Fait que tout ça joue. Alors, c'est une réflexion, mais ça veut dire qu'il y a des jeunes qui pourront pas compléter, si on veut, leur saison de baseball parce qu'ils ont pas reçu le vaccin, puis parce que cette date-là est arrivée, disons, en vigueur et s'applique. Je vous rappelle également qu'il y aura grève dans des CPE, 10 jours de grève de voter. Première grève, c'est vendredi prochain. Alors, ça veut dire que les parents devront continuer à essayer de s'organiser. Et les journées de grève sont toujours annoncées à l'avance. Autre chose maintenant en campagne électorale. Il y a 2-3 éléments ce matin. D'abord, le vote, c'est lundi. Les chefs sont dans le dernier droit. Et je comprends là, qu'on parle beaucoup de M. O'Toole, du fait qu'il a soutenu la stratégie de l'Alberta pour combattre la pandémie, puis que ça s'est retourné contre lui, puis qu'il a été obligé de présenter ses excuses parce que ça a explosé en Alberta, puis situation extrêmement difficile en Saskatchewan. Mais je suis pas certain que ça fait partie des grandes réflexions que vous avez avant d'aller voter. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà voté, je sais qu'il y a des gens qui sont déjà, je dirais, accrochés à un parti, à un chef, à une idée. Puis il reste encore des gens qui hésitent. Puis là, tu dis, est-ce que je vote stratégique? Dépendamment de la situation dans mon comté, il y a une dizaine, une douzaine de comtés, disons, plus chauds au Québec. Alors, si je vote bloc, est-ce que j'atteins mon objectif? Est-ce que je vote avec mes convictions, avec mes tripes? Je vous lance ça ce matin juste comme pour parler un peu de cette réflexion. Deuxièmement, j'ai beaucoup de courriels de gens qui se questionnent sur le vote postal. Il y a eu des ratés. Des documents qui n'étaient pas complets. Ça a l'air que c'est assez compliqué de parler à un être humain quand tu vas avoir des précisions. Puis troisièmement, dans les bureaux de scrutin, des gens qui se présentent, me dit-on, ça a l'air que c'est pas trop rigoureux dans la vérification. T'as pas toujours besoin d'une pièce avec photo. Puis on est encore à l'âge de pierre avec des listes imprimé, puis la petite règle, puis le petit crayon, puis des gens qui pourraient potentiellement, peut-être, disons qu'ils voudraient mal faire, là, puis frauder. Alors là, c'est pas trop compliqué. Puis c'est toujours l'équilibre, tu veux pas priver un citoyen de droit de vote, mais en même temps, ça prend peut-être un minimum. Donc, lundi, ce sera la journée du scrutin. Rapidement, dans les autres nouvelles ce matin, il y a Gilbert Rozon qui dépose une poursuite contre Patricia Tulane. C'est dans la presse, alors on sait qu'il est poursuivi au civil. C'est tout le mouvement qui a suivi le MeToo. Et Patricia Tulane a été pas mal, je pense, celle qui a porté le ballon. Donc, c'est une poursuite pour atteinte à sa réputation. On sait qu'elle-même poursuit Gilbert Rozon pour l'avoir agressé. C'est une poursuite de 1,6 million. Dans le cas de Rozon, lui, il dépose une contre-poursuite de 150 000. Vous verrez les détails dans la presse ce matin. Lui dit qu'elle s'attaque à sa réputation, tente de le salir, que tout ça est faux, non fondé, et que les seules relations qu'il a eues avec elle étaient tout à fait consentantes, et qu'il n'y a pas eu de relation forcée, il n'y a pas eu d'agression sexuelle, que bref, c'est une histoire inventée. Et on sait qu'elle fait partie du mouvement Les Courageuses. Il y a eu plusieurs poursuites aux civils qui ont été déposées également contre Gilbert Rozon. Aussi, ce matin, c'est dans le Journal de Montréal, les autorités qui tentent de retracer tous les enfants de la DPJ qui ont vécu dans une résidence de Lanaudière, qui était un foyer d'accueil. Un homme, l'homme de la maison, le père, si on veut, était accusé d'agression répétée sur une enfant de moins de 12 ans. Il s'appelle Alain Lavallée, il a 56 ans. Il a été libéré après sa comparution au palais de justice de Joliette. Et il a été arrêté il y a une semaine. Fait face à 4 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur mineurs. Et on pense qu'il aurait fait d'autres victimes parce qu'il s'occupe depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans, de jeunes comme ça en difficulté. Alors, pour l'instant, il y a une victime, il y a une série d'accusations, mais disons que c'est probable, ou en tout cas, ça serait pas étonnant que d'autres personnes. Alors, ça va peut-être allumer une cloche chez vous, une lumière, là. Alain Lavallée, et ce gars-là a 56 ans. Ça se passe donc dans Lanaudière. Le prix du bois d'œuvre, semble-t-il, est en train de se stabiliser. Vous avez peut-être remarqué, on se souvient de la folie à un moment donné. C'était complètement délirant, les prix. Et Radio-Canada nous dit qu'il y a vraiment une baisse du prix du 2 par 4, assez spectaculaire. Là, il y a un prix de référence, je vous le donne, mais c'est sans doute pas la réalité du Québec, là. Mais on parle au mois de juin de 12,65 $, et là, c'est autour de 4 $, semble-t-il. Donc, tout ça parce qu'il y a comme une demande moins forte, toujours pareil. Et en gros, que les travaux de rénovation ont pas mal été faits. En tout cas, les gens qui voulaient le faire se sont dépêchés à le faire. Et un mot pour vous dire aussi que c'est un peu le coup d'envoi des élections municipales à travers le Québec. Il y a des gens qui m'envoient des photos de Saint-Jean-sur-Richelieu où tu as un mélange des candidats aux élections fédérales, des élections municipales. Alors, M. Coderre va avoir ses pancartes, Mme Plante va avoir ses pancartes, et on est en route pour le mois de novembre, ce qui veut dire qu'une fois l'élection fédérale passée, on va avoir quand même des enjeux importants au municipal. On a beaucoup parlé de sécurité, mais il y en a d'autres. Alors, c'est officiellement donc le grand départ pour la course à la mairie de Montréal.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Nous recevons ce matin le chef du NPD, Jagmeet Singh. Hier, M. Trudeau est avec nous. Avant-hier, c'était Yves-François Blanchet. Je veux préciser que nous avions également transmis une invitation à Aaron O'Toole qui l'a déclinée. Alors, M. Singh, bonjour.
Bonjour, monsieur.
D'abord, vraiment, c'est le dernier droit de cette campagne électorale. Puis la première question que j'ai le goût de vous poser ce matin, je regardais des manchettes, on vous présente comme le Robin des Bois, celui que tout le monde aime, qui est généreux, qui a des programmes extraordinaires. Pourquoi ça lève pas autant? Pourquoi vous n'êtes pas, à tout le moins, à la tête des sondages avec autant de promesses?
On travaille fort. Et pas comme les libéraux qui prennent pour acquis qu'ils vont recevoir un montant de vote. Pour nous, on travaille fort pour chaque vente. On veut gagner la confiance des gens. Et je ne lâche pas jamais. J'adore cette phrase en français. Lâchez pas. Donc, on ne lâche pas.
Qu'est-ce
jamais.
Qui manque? Qu'est-ce qui fait que c'est pas plus, que vous êtes pas en avance?
Je pense que c'est un travail difficile. On doit continuer pour convaincre les gens. C'est quelque chose qui prend du temps. Et on va continuer. On ne lâche pas. On continue de montrer. On est le seul parti avec un plan pour faire payer le juste part des ultra riches, pour investir dans les gens, pour chercher des solutions au lieu de chercher des excuses. On est là pour aider les gens. Je veux améliorer la vie des gens.
OK. Je voudrais prendre des exemples, des engagements que vous avez pris durant cette campagne électorale. Quand vous dites, par exemple, sur les paradis fiscaux, il faut aller chercher l'argent.
Oui.
Comment vous allez faire pour convaincre, parce que ça se passe et c'est un problème mondial, c'est pas que le Canada. Comment vous allez convaincre les autres juridictions de mener cette bataille pour justement ramener ces sommes perdues au Canada?
Donc, il y a toujours un travail qui commence avec les autres pays, mais ce qu'on propose, c'est un changement des lois au Canada, parce qu'à ce moment, c'est permis de gagner d'argent au Canada et puis les cacher dans les autres juridictions. C'est permis dans les lois. Donc, si on change les lois au Canada, on peut réduire l'utilisation des paradis fiscaux. Donc, ça, c'est une façon.
Mais il n'y a pas un risque que ces gens-là quittent tout simplement puis puissent aller ailleurs dans d'autres pays plus généreux, plus tolérants?
Il y a un exemple que je peux donner. Les grandes entreprises qui vendent le bœuf, qui vendent les épiceries. Il y a des grandes entreprises. C'est eux qui aussi utilisent ces paradis fiscaux. Donc, ils gagnent tout leur profit ici au Canada. Je ne pense pas qu'ils vont quitter parce que toute leur entreprise est au Canada pour vendre leurs marchandises au Canada. Donc, non, je ne pense pas qu'ils vont quitter. Pas
OK. Je veux vous parler de la pandémie.
Oui.
Qu'est-ce que vous auriez fait de différent de Justin Trudeau?
Quelques mesures différentes. Premièrement, dans le début, on a dit qu'il n'y avait pas une approche pour protéger la population avec plus de sécurité dans le domaine de frontières.
Les frontières, ouais.
Exactement, dans la frontière. Deuxièmement, on a demandé 22 fois pour une expansion d'un programme de congé des maladies payées. Ce n'est pas quelque chose qui existe à ce moment dans chaque province. Dans une pandémie, dans une crise, on a proposé d'avoir un programme au niveau fédéral pour aider les gens tout de suite. M. Trudeau a éventuellement dit oui, mais le programme ne fonctionne pas bien. Donc, on a dit 22 fois pour une expansion de ce programme, on aurait fait ça tout de suite au début. On a dit que ce qui est important, c'est d'être proactif pour aider les provinces, pour avoir un passeport vaccinal fédéral tout de suite, parce que si on va voyager avec un passeport vaccinal, pourquoi on ne peut pas utiliser ce même document pour voyager au Canada? Parce qu'il y a des provinces qui disent oui, ils disent non. Si le gouvernement fédéral a agi tout de suite, on aurait pu avoir une passeport.
Mais
tout
prenons,
de suite.
Prenons ces deux exemples. D'abord, le passeport vaccinal, vous êtes d'accord avec ce principe-là?
Oh oui, bien sûr.
Vous êtes d'accord qu'on l'utilise pour avoir accès, par exemple, à un restaurant, pour avoir accès à un gym, pour pouvoir aller voir un spectacle?
C'est une décision que les provinces ont prise.
Mais personnellement, vous en pensez
oui,
quoi?
Oui, je pense que c'est une bonne idée pour encourager, parce que c'est vraiment quelque chose qui va protéger la population. Je suis un avocat comme formation, j'appuie fermement les droits de la personne, je les défends, je l'ai défendu comme avocat, mais j'ai aussi quelqu'un qui croit profondément qu'on doit faire des choses pour la collectivité, pour le bien-être de tous les gens, donc c'est un exemple de ce qu'on peut faire pour protéger les autres aussi.
La vaccination obligatoire dans le réseau de la santé, là on voit bon les cas qui ont augmenté en Alberta, en Saskatchewan. Québec va imposer la vaccination le 15 octobre à l'ensemble des employés du réseau de la santé. Êtes-vous d'accord à ce qu'on utilise donc un décret pour vacciner les gens qui sont en contact avec des patients?
Oui, bien sûr. J'étais toujours d'accord. On a aussi dit qu'on doit la faire au niveau fédéral pour les travailleurs au niveau fédéral dans le gouvernement. Donc, je crois que c'est essentiel qu'on le fait.
Comment vous marier cette déclaration de dire « je suis d'accord à ce qu'on vaccine de façon obligatoire », puis en même temps, vous me dites « pour moi, les droits fondamentaux, les libertés individuelles, le discours de Maxime Bernier qu'on entend, comment vous conciliez une vaccination obligatoire et le respect des droits? »
C'est toujours une décision difficile et c'est un débat philosophique qui continue. Dans la société, souvent, on prend des décisions où on doit faire des choses pour la collectivité et c'est quelque chose qu'on doit faire. Dans ce cas, on a une crise, une pandémie et on sait que les vaccins sont sécuritaires, c'est bon pour la santé, ça aide les gens. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose à dire à quelqu'un d'être vacciné, ça va sauver les vies des gens, eux-mêmes et aussi les autres. Et les gens ont toujours le droit de dire non, mais ils ne peuvent pas continuer de travailler donc c'est dans ces domaines. Donc, c'est toujours le droit de dire non, mais si vous allez travailler en contact avec les autres personnes comme un travailleur de santé, c'est important. On peut travailler avec les syndicats et les travailleurs et travailleuses pour trouver une solution okay. pour les aider, mais c'est des conséquences.
Bon, M. Legault au Québec a dit, donner un appui aux conservateurs et un peu aussi au Bloc québécois par la suite, en disant ne votez pas pour Justin Trudeau, ne votez pas pour les Verts, puis ne votez pas pour vous, M. Singh. J'ai demandé hier à M. Trudeau, par exemple, sur le transfert des sommes d'argent vers le Québec en santé, vers les provinces. Est-ce qu'il mettrait des conditions? Sa réponse était très claire, il a dit oui. Et je ne ferai pas comme les conservateurs qui promettent un chèque sans condition. Si vous êtes premier ministre demain, que vous faites des transferts aux provinces, allez-vous imposer des conditions?
Notre déclaration sur Burk qui a été faite par Jack Layton dit que, et je le crois, que le Québec a toujours le droit de retraite avec pleine compensation avec tous nos programmes fédéraux.
Mais donc, vous n'allez pas dire je transfère X milliards en santé, mais voici, c'est pour les centres de soins de longue durée, c'est pour la santé mentale. Allez-vous être précis dans les transferts et les montants que vous allez avoir?
Non, le Québec a le droit de retraite avec plein de compensation. Ça veut dire que non, on ne dit pas ça. On veut travailler ensemble pour bâtir des programmes comme une assurance médicaments universelle, mais ça va être quelque chose de volontaire parce qu'on peut rassembler la puissance d'achat de tout le pays pour réduire les coûts des médicaments, mais c'est toujours seulement une option volontaire. Si le Québec dit non, ils ont le droit de retraite.
Beaucoup de Québécois voient le NPD comme un parti centralisateur, comme un parti qui veut vraiment garder au pouvoir fédéral d'abord l'ensemble des prérogatives, puis même aller en chercher, arracher des pouvoirs aux provinces.
Je dis, ce n'est pas le cas. C'est pour moi, mes valeurs, je ne peux pas rester les bras croisés quand je vois les gens qui souffrent. Donc, s'il y a une solution, je veux chercher la solution, pas une excuse. Je sais que c'est difficile de travailler ensemble. On le sait dans notre vie, notre quotidienne, c'est difficile. Mais c'est important. Si on veut faire les grandes choses, on doit travailler ensemble. Donc, un exemple, la science médicale universelle. Le Québec était avant-gardiste avec son propre programme. Mais la réalité, c'est que ça coûte trop cher parce que c'est un programme hybride, privé-public. Avec notre programme, ce qu'on propose, si on achète ensemble, si on négocie ensemble, on peut réduire les coûts et ça va aider les gens. Ça va réduire les coûts pour monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'on va réduire les programmes privés qui coûtent trop cher pour les travailleurs. Ça va vraiment aider les gens. Mais c'est seulement si on peut le réaliser volontairement en travaillant ensemble.
Faire un pas un jeu avec vous ce matin, mais un électeur du Bloc québécois qui vous écoute et qui va lundi voter pour le Bloc québécois, qu'est-ce que vous lui dites pour le faire changer d'idée? Pourquoi est-ce qu'il voterait pour vous alors qu'il s'apprête à voter pour le Bloc?
Le Bloc a un but différent. Il ne veut pas vraiment que le gouvernement fédéral fonctionne parce que leur but, c'est différent. Et je ne le critique pas parce que ça, c'est leur but. Mon but, c'est de faire fonctionner le gouvernement fédéral pour vous aider. Donc, dans cette pandémie, on est le seul parti qui était vraiment là. Les autres partis d'opposition étaient absents parce qu'on était le seul partenaire pour dire on doit doubler la PCE. Et ça a donné d'aide aux 1,8 million des Québécois et Québécoises.
Mais le Bloc a quand même appuyé le gouvernement sur des mesures.
Mais ils ont appuyé, mais ils n'ont pas été là pour forcer le gouvernement de faire les choses. On était là pour les négociations. On était là pour forcer le gouvernement de faire les choses. Après, quand les décisions étaient prises, les autres partis ont dit oui, mais c'était nous qui avons fait les négociations pour continuer la PCE. À plusieurs reprises, les libéraux ont voulu l'arrêter. C'était nous qui l'a continué. On a augmenté la subvention salariale. On était là dans les négociations pour les augmenter. Et en faisant ça, on a sauvé des millions d'emplois. On a mis en place un programme de congés des maladies payés fédéraux. C'était nous qui l'a fait. On a livré l'aide pour les étudiants qui n'étaient pas couverts par la PCU. Donc, ce qu'on a gagné, plusieurs gens ont dit, c'était une des plus grandes victoires pour aucune partie d'opposition dans l'histoire du Canada. Donc, si vous voulez quelqu'un qui est là pour vous, qui veut que le gouvernement fédéral fonctionne pour vous, pour les Québécois et Québécoises, on a livré la marchandise. On a montré qu'on est là, on a forcé le gouvernement de faire des choses. Les autres partis ont critiqué, on livré la marchandise.
Vous avez une circonscription, un député au Québec, après la fameuse vague orange de Jack Layton. Comment vous expliquez, outre la personnalité de M. Layton, là, que le NPD s'est effondré à ce point-là au Québec, que vous n'arrivez pas à faire élire quelqu'un autre que votre candidat là, dans Rosemont?
Je pense que encore c'est un travail difficile et je sais qu'au Québec, on change beaucoup. Chaque élection, il y a un changement. Donc, les autres partis prennent pour acquis les votes des gens. Nous, on travaille fort, on va continuer de travailler. On sait que les Québécois peuvent décider au dernier moment de changer leur opinion et je suis ouvert à continuer de faire ce travail. On a des excellents candidats et candidates comme Ruth-Hélène Brousseau qui se présente encore et on est fiers qu'on peut gagner encore plus de sièges. Moi, je veux continuer de montrer que nous sommes des alliés pour le Québec. On a une offre qui dit clairement que les autorités doivent payer le juste part. On est le seul parti avec cette offre. On va continuer de faire le travail.
Merci d'être venu ce matin. Bonne fin de campagne, M. Singh.
Et merci beaucoup.
Au revoir. Jack Meetsingh, le chef du NPD.
L'essentiel de Paul Arcand.
Hier, on s'est retrouvé avec la fermeture de l'urgence à l'hôpital du Sourois. Qui a dû être fermé de minuit à 16 heures en raison d'un manque de personnel et en parallèle d'un achalandage élevé. Le directeur des activités hospitalières de l'hôpital est avec nous, Dominique Pilon. Monsieur Pilon, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, d'abord, ça a fermé de minuit à 16 heures. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pris la décision de fermer?
Ben, en fait, c'est sûr que tout d'abord, c'est une décision de sécurité pour nos patients. Donc, c'était rendu, vous l'avez bien dit, un achalandage excessif, un enjeu de ressources humaines important. Donc, dans les diverses situations ou possibilités de décision qui s'offraient à nous, c'était la seule puis l'ultime là, dans la situation catastrophique que nous avions. Donc, on a pris la décision là, de fermer l'urgence ambulatoire. Donc, je tiens à préciser, en fait, que toutes les ambulances qui rentraient ont continué à desservir les patients. Tous les patients ambulatoires qui venaient à pied à l'urgence étaient quand même triés. Donc, les P1, P2, donc réaction allergique grave, les arrêts cardiaques ou d'autres diagnostics graves, là, ils étaient quand même vus et pris en charge. Et les autres étaient accompagnés d'une travailleuse sociale pour être redirigés, là, redirigés chez nos partenaires, les groupes de médecine familiale, les cliniques désignées pédiatriques ou autres partenaires du réseau.
Mais par exemple, entre minuit et 6 heures du matin, il ne doit pas avoir grand GMF d'ouvert, là?
Non, il n'y a pas grand GMF d'ouvert, mais dans la mesure où on prend les priorités, là, les cas les plus prioritaires, donc à ce moment-là, on a déjà des plages de rendez-vous dans nos GMF en début de journée, puis même que les groupes de médecine familiale ont fait un effort supplémentaire pour réouvrir des plages dans la journée pour venir supporter là, la décision là, qu'on avait prise.
Est-ce que je comprends que durant le quart de nuit, il y avait 3 infirmières sur 14?
Ah oui, c'est pour ça que... En fait, c'est une mobilisation sans précédent, là, je dirais, de toute la communauté de notre CIS dans Montérégie-Ouest. Ce sont les cadres des infirmières de d'autres secteurs, mais des cadres supérieurs qui sont rentrés. Notre directeur général adjoint, qui est infirmier, est rentré sur le plancher. La directrice des soins critiques est spécialisée. Puis, écoutez, je ne vous cacherai pas, c'était la même chose la nuit dernière. Notre directrice des soins infirmiers est venue sur le plancher. Et il y a plusieurs personnes comme ça, des infirmières, des non-infirmiers, qui présentement là, donnent de leur temps sur le terrain. Moi-même, je vais être sur toute la nuit là, sur le plancher là, pour aider les équipes et faire en sorte là, de réduire la pression qui peut subsister là, dans l'hôpital.
OK, mais deux questions sur la situation actuelle. Est-ce que l'urgence est ouverte ou c'est quoi le statut de l'urgence à votre
point? Oui, l'urgence est ouverte.
OK. Et donc, ce sont des cadres puis des gens qui viennent d'ailleurs qui assurent le service?
Bien, en fait, ils viennent bonifier. Dépendamment, présentement, là, la situation est critique au point où on travaille corps par corps. Donc, on s'assoit avec les équipes. Écoutez, la gestionnaire là, de l'urgence est presque sur le terrain tout le temps. Elle prend des sections elle-même. Et on faut voir corps par corps comment on a d'infirmières, qu'est-ce qui nous manque. On fait appel à tout le monde. Et comme je l'ai dit, là, on se retrousse les manches pour s'assurer là, de ne pas revivre un bris de service comme on l'a vécu là, dans les dernières 24 heures.
OK, mais j'essaie juste de comprendre comment on peut se retrouver dans une situation où il y a 3 infirmières seulement sur 14 qui sont là.
Ouais, en fait, là, c'est une excellente question. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis arrivé en poste. Le poste de directeur d'exécutif hospitalier, c'est un nouveau poste. Là. Je suis arrivé au courant de l'été pendant la période estivale. C'est vrai que c'est surprenant de voir cette situation-là, mais ce que j'en comprends là, de quelqu'un qui vient d'arriver, c'est on sort vraiment, puis on le sait tous, là, d'une situation qui était déjà un enjeu de ressources humaines avant la pandémie, qui a été exacerbée par la pandémie. Et moi, là, je croyais bien que, bon, mais la situation des vacances, on voyait que, bon, mais il y a des infirmières parties en vacances, mais là, les vacances sont finies, puis on connaît cet enjeu-là, vraiment problématique. C'est pour ça que là, on se dit, wow, c'est catastrophique ce qu'on est en train de vivre, d'où la situation de dire, oui, on travaille corps par corps pour faire en sorte d'aller mobiliser tout le monde pour pas avoir à fermer à nouveau l'urgence. Mais là, on passe à l'action. Moi, je suis sur le terrain tous les jours. Je vois, j'entends, je vis avec les gens de l'hôpital toute la situation qu'on est là. Puis les gens, ils veulent que ça change. C'est inacceptable de forcer les gens à faire du TSO comme c'est là. Puis le manque de personnel, il est flagrant. Fait que, tu sais, dans les prochaines, vous parliez juste en entrée de jeu des différentes pistes de solutions. Les paramédics, là, on a travaillé fort avec la coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie. Puis à partir de la semaine prochaine, on a des techniciens ambulanciers qui vont être intégrés dans notre urgence. C'est sûr que ça remplace pas une infirmière, mais ça vient donner un coup de main. Ça lance un signe d'espoir. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a de l'action.
Mais M. Brion, je vous donne un exemple. Là, puis je citais tantôt le docteur Boucher, là. Puis il y a bien des gens qui se disent, là, parce que le 15 octobre, là, si vous êtes dans le trouble aujourd'hui, là, je peux pas trop imaginer quelle sera la situation le 15 octobre quand la vaccination obligatoire va s'implanter, puis donc que des gens vont quitter. Comment vous allez gérer ça le 16 octobre au matin, le savez-vous?
Bien, le 16 octobre au matin, c'est sûr que ça amène une préoccupation. Mais vous savez, avant d'être directeur des actes hospitalières, là, pendant un an et demi, j'ai géré le dépistage et la vaccination. Puis en même temps, c'est inadmissible de penser que des personnes non vaccinées puissent côtoyer comme soignants de si près des gens qui sont à peu près les plus vulnérables de notre communauté. À cet effet-là, à l'hôpital du Surouet, là, on a 97% des gens qui sont vaccinés. Donc, c'est très bien. On a à peu près 5 infirmières là, qui ne sont toujours pas vaccinées dans des unités qui sont réparties. Il y a d'autres types d'emplois aussi. C'est sûr que c'est préoccupant, mais comme le dit notre ministre, on va travailler à réorganiser nos services. On va s'assurer qu'au 15 octobre, l'impact soit le plus minimal possible.
Est-ce que, c'est une idée, là, puis je sais que des gens sont très frileux, on l'a vu dans la première vague, la présence de la Croix-Rouge, la présence, je sais pas moi, de certains militaires, puis là je pense à des hôpitaux militaires. Est-ce que je veux dire par là d'aller chercher des ressources pour soutenir le réseau?
Bien, en fait, vous avez raison. Ces démarches-là ont été faites auprès des partenaires. En fait, là, toute initiative qui va pouvoir nous amener un peu d'air, on va le prendre, parce qu'on ne peut pas avoir la prétention de penser qu'on va avoir la bonne réponse, la bonne solution. Si elle existait, là, tout le monde l'aurait mis, parce que en fait, la situation n'est pas simple à l'hôpital du Sourouet, là, mais pas plus simple auprès de mes collègues. Là. Donc, cette solution-là en est une piste, il y en a plein d'autres, le renforcement de la première ligne, un bon coup qu'on vient de faire hier, puis on a une excellente relation avec le syndicat. Donc, on va repartir. On est toujours en mode de recrutement, mais à partir de la semaine prochaine, on aura une super campagne. Puis là, on vient d'ouvrir avec le syndicat sur à peu près des postes à la carte. Un 12 heures, tu veux travailler 12 heures, 3 jours semaine, faire ta semaine, bingo. Tu veux avoir un poste à temps partiel, un poste à temps plein. En fait, avec le syndicat, on a réouvert sur plusieurs aspects qui, espérons-le, va nous amener là, à court terme des infirmières supplémentaires. Les infirmières retraitées, là, avant, il fallait qu'il y ait certaines règles qui s'appliquaient. Maintenant, tu es une infirmière, tu veux donner une demi-journée, une journée par semaine, mais viens-t'en, on va t'accueillir.
Ben, je suis content de vous entendre ce matin et comme vous dites, vous gérez ça un quart de travail à la fois. Bonne ouais. chance, M. Pilon.
Merci beaucoup.
Au revoir, bonne journée. Au revoir. Dominique Pilon est le directeur des activités hospitalières de l'hôpital du Sourouet à Salaberry de Valleyfield. On vient d'avoir un portrait d'une situation terrain dans un hôpital, mais plaçons-nous en tête là, le 15 octobre. Puis je sais que c'est pas populaire de dire « déployons des forces venant d'ailleurs ». Là. Il y a des gens de la Croix-Rouge qui sont capables d'intervenir dans des pays où il y a des catastrophes. C'est pas que c'est le cas, là. Mais il me semble que quand tu as une structure qui déborde, peux-tu mobiliser les ressources? Je sais, les politiciens n'aiment pas ça, là. Québec ne peut pas demander coup de pouce du fédéral, mettons, pour l'armée. Ça a pris tout la dernière fois. Ça a pris le scandale des centres de soins de longue durée. Ça a pris le scandale Enron, comme on voit. Mais il me semble que ces gens-là, pour les attirer, pour les retraiter, puis c'est intéressant d'entendre M. Pilon, là, c'est pas juste de faire un chèque. Là. C'est pas une vision comptable pure. Là. Ça prend pas mal plus que ça.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, il n'y a pas si longtemps, il a fait pas mal chaud au Québec. Puis on sait qu'on aura d'autres épisodes de canicule puis de température fin du mois d'août à 30 degrés puis au début septembre. Et on sait aussi que nos écoles au Québec sont pas trop équipées pour faire face à ça. Des écoles où il n'y a pas beaucoup de ventilation, il peut faire très, très chaud dans des classes. Dans les cantons de l'Est, il y a des parents qui se sont organisés pour justement trouver des climatiseurs pour les installer, puis pas attendre après le système, là, évidemment. Et je pense que tout le monde était content. Je parle avec Stéphanie, qui est la mère d'un élève d'une école primaire. On ne donnera pas de détails sur l'école. On sait comment ça marche dans le monde de l'éducation. Stéphanie, bonjour.
Bon matin.
Peut-être nous expliquer un peu la démarche que les parents ont fait là, pour améliorer, disons, la qualité de l'air dans l'école.
En fait, lors de la journée de la rentrée fin août, comme vous mentionnez, on était en plein épisode de canicule. Il devait faire 37 degrés dehors. Il faisait vraiment chaud, donc c'était incroyable dans la classe à quel point on suffoquait. Il y avait juste un petit ventilateur de 9,99 $ chez Canadian Tire. C'est le gros équipement. Et là, ben, on nous explique que, ben oui, il n'y a pas d'air climatisé et tout, la professeure doit débourser. Je suis comme ça, pas de bon sens, on va t'en trouver une. Donc, Jeanne d'Arc des temps modernes. Je mobilise, on trouve un air climatisé, la prof est contente, le lundi suivant, l'air climatisé est installé. Parfait, nos enfants seront au frais lors des prochaines chaudes de journée. Et là, hier, on a reçu l'annonce que les aires climatisées de type résidentiel, comme on avait fourni, là, doivent être retirées. Mais c'était pas la seule qui avait ce type d'air climatisé là. J'aimerais ça voir au Québec actuellement dans les écoles combien d'air climatisé de ce type là il y a là, dans les classes.
Mais
c'est illégal.
Comment c'est illégal? Pourquoi faut le retirer?
Donc là, il y a plusieurs raisons qu'on m'a expliquées. Un, le principe de la gratuité scolaire. Donc, dès qu'il y a eu un recours collectif de parents qui s'objectaient quand les écoles demandaient des choses de plus aux parents. Donc, je tiens à spécifier que nous, c'était un don à l'école. C'est une amie qui nous l'a donné. Là. Ensuite, le principe de la santé publique. Parce que dans les aires climatisées de type résidentiel, il y a des champignons qui peuvent se développer, des pathogènes, etc., etc. Il faut pas que ça nuise à la qualité de l'air de nos écoles, parce que c'est bien connu. La qualité de l'air des écoles, c'est comme un bar à oxygène, là. On est super bien dans les écoles déjà en partant. Et c'est une nécessité aussi, donc, etc., etc. C'est au-delà de la commission scolaire. On ne peut pas mettre des aires climatisées, ce sont des objets ostentatoires, dans les écoles. Attendons que nos écoles soient rénovées.
OK. Donc, ça veut dire que, par exemple, hypothèse, là, au printemps ou vers la fin des classes, là, c'est-à-dire mai, juin, il y a encore des journées chaudes.
Oui.
Vous devez attendre que le système fournisse à l'école des appareils pour améliorer la qualité de l'air puis climatiser la classe, mettons.
Exactement. Donc, des appareils qui sont approuvés par l'institution, régie, normée, etc. Sinon, d'ici là, moi, ce que j'ai compris, là, depuis hier, je pense, puis je vais peut-être mettre des ice packs de glace sèche pour pas qu'il y ait la condensation et la moisissure qui puissent se développer dans l'école par la suite, sur mon enfant. Mais oui, effectivement, outre l'ironie, c'est ce qu'on comprend de ça. C'est que tout ça partait d'une bonne intention, puis je me sens tellement mal parce que là, c'est les autres professeurs qui avaient ces heures climatisées là dans leur classe aussi, ont dû les retirer là, parce qu'il y a une amende qui aurait pu être versée. Donc, on est vraiment dans la peur de on est dans l'hyper-prévention.
Mais comment d'abord, un, les profs devaient être contents d'avoir ça. Deuxièmement, oui. La direction de l'école même était d'accord avec votre démarche?
Mais en fait, c'est que ce que je comprends, c'est que c'est une règle qui était déjà pas permise avant la COVID. La COVID a fait en sorte que on enlève ceci, on a un tas de livres de Tintin, on les fait brûler en même temps que les livres, puis on n'en veut plus, c'est vraiment dangereux, mais là, ça se pourrait qu'on ait permis, parce qu'effectivement, il fait chaud encore à la fin du mois d'août, puis il va faire chaud encore à la fin du mois d'août, de plus en plus, puis en juin et en mai, mais donc ça s'est su. Ça s'est su par le directeur de la commission scolaire qui n'a vraiment pas trouvé ça drôle. Alors, elle a somme la direction de retirer ça.
OK, merci de nous avoir parlé. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Stéphanie, qui est mère d'un élève qui fréquente une école primaire. Si tu attends après la machine, là, peux-tu figurer le nombre de mois que ça va prendre? Vous avez vu la lenteur du ministère de l'Éducation sur les tests de qualité de l'air? En pleine crise de pandémie, là, le temps que ça a pris. Vous avez vu le temps que ça a pris de déployer des tests rapides. Imaginez-vous, là, le temps que ça va prendre pour avoir des appareils dans des classes comme ça. Premièrement. Deuxièmement, il y a une différence entre l'école qui demande des frais à des parents, puis des parents qui offrent des choses. Ils n'ont pas été sollicités. Puis je vous dis pas que c'est la formule parfaite, là. Ça devrait pas être aux parents. Normalement, l'école devrait être capable de fournir une qualité d'air qui a de l'allure. Tu peux pas demander à des enfants pis à des profs d'être dans des classes à 37 degrés. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, pour marquer que ça dérange pas trop le système quand les profs compensent de leur poche pour acheter des effets comme des boîtes de mouchoirs, pour acheter des balles, pour acheter toutes sortes de trucs qui manquent à des enfants, surtout dans des milieux défavorisés. Chaque année, je reçois des courriels de conjoints, conjointes de profs qui disent, ben, ma conjointe a dépensé de sa poche 125 $, ça coûte 200 $ dans l'année, pour pas qu'il y ait de préjudice aux enfants parce que c'est pas tout le monde qui est capable de se payer tout ça. Ce que je veux dire par là, ça, le gouvernement, ça le dérange pas trop, hein. Les patenteux de centres de services scolaires regardent ça puis c'est correct. Tu sais, c'est de l'argent de moins qu'ils ont à sortir. Mais quand des parents s'organisent un peu, sont débrouillards, ben là, évidemment, tu tues l'initiative, faites pas ça, puis là, tu fais appel à peu près à toutes les ramifications de l'État pour être bien sûr là, de noyer ça, puis qu'aucun parent oserait dans le futur faire une telle démarche.
L'essentiel de Paul Arcand.